allons maintenant remettre la victoire de l'artiste lyrique. Et dans cette catégorie, les nommés sont...
Benjamin Bernheim, ténor. Karine Dehé, mezzo-soprano. Elsa Draisi, soprano.
Alors Leïla,
c'est un cas exceptionnel. Deux ex-aequo, Karine Dehé et Benjamin Bernheim.
Oh bah, elle a prononcé à l'allemande.
Elle a prononcé à l'allemande.
Là. Bonjour. Exactement. Benjamin Bernheim, on dit comme ça, bonjour, vous me venez de me le dire. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et toutes nos félicitations.
Ben merci de me recevoir.
Pour cette victoire de la musique classique, donc hier soir. Vous êtes le même homme ce matin ?
Oui, oh oui, ça change.
Vous avez l'air, en tout cas.
Ah oui, ça change rien. C'est un couronnement en plus. C'est une reconnaissance absolument merveilleuse et surtout très importante dans le métier de l'opéra. Parce que y a pas de points. On n'est pas à l'ATP, on n'est pas des tennismans ou des joueurs de foot. Y a pas de points. Donc, quand tout d'un coup on reçoit un trophée ou quelque chose qui récompense une belle année ou une carrière qui débute, c'est important, c'est un message important lancé au reste de la profession, surtout en France, mais aussi à l'étranger, donc c'est très important.
Vous l'aviez entendu, cette remise, cette annonce, puisqu'en fait, vous ne pouviez pas être à Metz hier soir, vous étiez en répétition à l'Opéra Bastille à Paris, répétition de Manon, dont la générale aura lieu lundi soir.
Exactement.
Donc vous n'avez même pas entendu ce qu'on vient d'entendre.
Non, j'ai pu regarder le début de l'émission, et ensuite j'étais en voiture, et j'ai surtout reçu beaucoup de messages qui m'ont annoncé la victoire ex aequo avec Karine, et j'ai reçu même un message de Karine tout de suite après, très très agréable. Donc voilà, non seulement c'était compliqué pour moi d'être présent à Metz, parce qu'il aurait fallu éventuellement que je chante, tout participant doit présenter quelque chose, et comme on est à l'Opéra de Paris en ce moment dans la dernière ligne droite des répétitions de Manon, donc c'était les général piano, les scènes et orchestres, c'était vraiment une semaine très très intense, beaucoup de travail, et Manon c'est un gros morceau à chanter, tant pour Manon que pour des Grieux. On était vraiment dans une période où on avait besoin de répéter, de vraiment finir les répétitions pour le chef, pour le metteur en scène, donc se déplacer même à Metz, je crois que c'est une heure de train, je crois que c'est pas très très loin.
C'était quand même trop
compliqué, trop difficile, et surtout mettait évidemment trop en danger la production et évidemment mon contrat à l'Opéra de Paris. Donc je m'excuse évidemment de mon absence hier, j'aurais beaucoup voulu y être et y participer. Et je suis ravi d'avoir vu qu'à la fin, Karine a pris notre trophée.
Voilà, c'est un trophée partagé puisque ex aequo, et vous nous réservez donc, et nous vous en remercions la primeur de votre réaction. Alors comme cadeau à nos auditeurs et auditrices à 7h13 sur France Culture avec vous Benjamin Bernheim, je propose à nos auditeurs de vous écouter. On va vous écouter sur le premier air qui est le premier titre de votre premier disque qui a paru cet automne et qui comporte des airs d'opéra célèbres, et donc c'est Werther. Pourquoi me réveiller ? Mais vous savez pourquoi vous vous êtes réveillé ce
matin ? Bonne question.
Nous aussi, hein. Ô souffle du printemps, Massenet.
Thank you.
Benjamin Bernheim, quand on entend cette aire de Werther, on entend toute l'intensité, toute la densité de votre voix. Alors évidemment, le chant lyrique, c'est avant tout l'instrument, la voix, votre outil de travail. Souvent, on parle de votre voix en disant qu'elle est chaude, sensuelle, veloutée. Vous ne l'avez pas aimée pendant très longtemps, on ne comprend pas bien pourquoi, mais il se trouve que vous êtes réconciliée avec cette voix.
Mais je crois que c'est une question de goût.
Aujourd'hui, vous diriez qu'elle a quelle couleur? Et je peux le mettre au pluriel, en fait, ces couleurs.
Elle a beaucoup de couleurs, des couleurs différentes. Je pense qu'au début, surtout quand j'ai commencé à chanter, j'avais une palette de 2-3 couleurs. Je crois que c'était très frustrant de n'avoir à ma disposition qu'une voix qui ne pouvait m'offrir, qui ne me laissait m'exprimer qu'à travers que quelques couleurs. Comme si j'étais un tennisman avec qu'une sorte de coup droit, croisé, un revers et c'est tout. J'avais rien. J'étais vraiment presque handicapé parce que je sentais le potentiel. Je voyais que je pouvais chanter, mais j'avais pas ma voix à disposition. Et avec le temps, la frustration, la patience, les échecs et les reconstructions, j'ai développé mes couleurs en essayant des choses. Et quand on parle de réconciliation, ça coïncide avec la période où j'ai accepté déjà qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qui sait comment je veux chanter, comment je peux chanter, et c'est moi. Et depuis mes 27-28 ans, ça fait 6-7 ans maintenant, c'est moi qui m'enseigne, c'est moi qui travaille ma voix, c'est moi qui sais où je peux aller. Et c'est peut-être l'équilibre que j'ai avec ma voix, c'est-à-dire que je ne suis pas en admiration devant ma voix, je n'adore pas ma voix. Je ne l'aime pas, mais je ne la déteste pas. Ce qui fait qu'en fait, on est des bons collègues avec ma voix et on travaille ensemble pour développer des couleurs. Et ça marche.
Vous me disiez que c'est de la conceptualisation mentale.
Complètement.
Ce qu'on entend là, ça veut dire quoi?
Alors ça, c'est un terme qu'utilisait mon professeur Gary McBee que j'ai rencontré au conservatoire de Lausanne en Suisse et qui avant Lausanne était directeur de l'Opéra Studio de Lyon. Il est américain et il m'expliquait, c'était surtout, on avait beaucoup de cours de chant qui finissaient avec de la philosophie, avec de la littérature, avec de l'imaginaire. Et il me parlait toujours, avant même de chanter, avant même d'ouvrir ta bouche pour laisser sortir le son, tu dois l'entendre, tu dois le sentir et tu dois le conceptualiser dans ta tête. Il y a un terme en allemand, imagination en allemand, c'est Vorstellungskraft, ça veut dire la force de la projection. Et c'est un mot qui a plus de sens en allemand qu'en français, puisqu'imagination, on pourrait penser à quelque chose de passif, quelque chose d'imaginaire. Dit qu'en allemand, la Vorstellungskraft, c'est vraiment la puissance, la force de se projeter quelque chose et donc d'avoir la force mentale de se projeter une image. Comme un artiste peintre, comme un athlète qui arrive avant même que le son sorte, avant même que le geste sorte. À savoir ce qu'il va faire.
Una furtiva lacrima negli occhi suoi spuntò.
Benjamin Bernheim, Una furtiva lagrima dans les lisières d'amour et de Donizetti. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de l'opéra? Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, un environnement familial mélomane, des chanteurs que vous entendiez?
Complètement, c'est vraiment comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors j'ai pas particulièrement aimé ça. C'était mon environnement, donc j'étais complètement habitué à écouter de la musique, entendre des chanteurs, entendre des cours de chant. J'ai suivi mes parents suivre leurs cours de chant, changer de professeur. C'était très intéressant évidemment parce que j'ai emmagasiné énormément d'informations de façon passive.
Il paraît qu'à 4 ans, vous connaissiez par cœur les noces du Figaro.
Alors, à 4 ans, je connaissais... Non, mais je pense qu'à 4 ans, n'importe quel enfant qui entend quelque chose en boucle est capable de vous le répéter sans problème. Parce qu'un enfant de 4 ans, c'était pas moi, j'étais pas particulièrement doué, parce qu'en plus, j'avais toujours la tête ailleurs, j'étais un enfant complètement dans les nuages. Mais je pense que de manière complètement passive, j'écoutais des répétitions dont mes parents faisaient partie. Ils faisaient des masterclass avec Gabriel Baquier à l'époque, et c'était une masterclass autour des noces de Figaro. Et il suffit qu'un enfant écoute 3 fois le même air pour qu'il se soit complètement imprimé dans sa tête. En plus, un enfant, il a peu à se souvenir. Sa vie commence. Et moi, c'était complètement par cœur. Et je corrigeais même les collègues de mes parents parce qu'ils disaient, mais hier, t'as dit ça, hier, t'as chanté ça. Ma mémoire c'était à vif.
Et vous disiez des chanteurs. Oui, tout à fait. Quand on dit aujourd'hui que vous êtes le nouveau Roberto Alagna, ça vous fait plaisir? Vous vous éprouvez une fierté?
Alors, ça me flatte parce que Roberto Alagna est la référence pour moi du ténor français, du ténor du répertoire français. Je ne suis pas sûr que ni pour lui, ni pour moi, ça nous serve à grand-chose. Je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte de ce que ça évoque aux gens. Quand les gens disent le nouveau Roberto Alagna, ça ne veut pas dire que j'ai la voix de Roberto Alagna, que j'ai sa musicalité, que j'ai son timbre, ou que j'ai son approche vocale ou son geste. Je pense que ça rappelle aux gens qu'il y a peut-être 25 ans, un jeune ténor a débarqué dans le monde de l'opéra en chantant du répertoire français d'une certaine façon. Et je crois que c'est ça ce que ça évoque aux gens, c'est ce souvenir d'un jeune ténor qui arrive et qu'on ne connaissait pas, qu'on n'attendait pas.
Et qui chante le répertoire français à sa façon. Est-ce que vous auriez aujourd'hui, Benjamin Bernheim, votre façon de chanter le répertoire français, auquel vous êtes très attaché? D'ailleurs, on le voit aussi, on l'entend plus exactement
sur
cet album, mais pas seulement.
Non, pas seulement, mais surtout pour le répertoire français. Je me suis libéré de beaucoup de choses. Au conservatoire, je chantais le répertoire français avec des airs roulés. Je n'aimais pas chanter français, ça me fatiguait la voix. C'était pas un style que je comprenais. J'arrivais pas à trouver mon style, voilà, surtout dans le répertoire français. Jusqu'au choc d'entendre et Nathalie Dessay et Roberto Alagna en disant « Ah tiens, on a le droit de chanter français comme ça !» Ça m'avait choqué.
Ça veut dire quoi, comme ça? C'était quoi, comme ça?
Comme ça, c'est-à-dire de façon intelligible. Déjà qu'on comprenait les mots, on comprenait le texte, et puis j'avais l'impression qu'on me racontait une histoire, et pas seulement qu'on me faisait une présentation vocale. Sans critiquer les gens avant, les autres chanteurs qui ont enregistré du français avant, pour moi, Roberto et Nathalie qui chantent le français c'était les débuts des années 2000, quand j'avais 18-19 ans, ça a été ma révélation à moi, et je me suis dit, voilà, si je veux chanter français, je veux me rapprocher de ça. Parce que là, ça a du sens complètement d'aller sur scène et de raconter une histoire du répertoire français en étant capable d'être intelligible comme ça et en plus de jouer avec les couleurs. Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais le répertoire français, de par sa langue et aussi grâce aux compositeurs comme Massenet et Gounod et Saint-Saëns, nous offre des couleurs, je trouve, beaucoup plus riches que certains autres compositeurs.
On va à nouveau entendre du Massenet, mais cette fois dans Manon, que vous êtes en train de répéter, opéra donc de Massenet, d'après le roman de l'abbé Prévost, bien sûr, Manon. Vous serez donc à nouveau des Grieux dans une mise en scène, cette fois de Vincent Huguet, avec Priti Yende dans le rôle titre et Ludovic Tézier en Lescaut. On écoute Manon, Instant charmant.
Instant charmant où la crainte fait trêve, où nous sommes deux seulement. Tiens, Manon, en marchant, je viens de faire un rêve.
Et J'ai dit, Benjamin Bernheim, que vous seriez à nouveau des Grieux, parce qu'en fait, vous avez été déjà une première fois, disons, consacré à l'Opéra de Bordeaux.
Absolument.
Dans des Grieux, dans une mise en scène d'Olivier Py. Comment vous expliquez ce succès? Est-ce que c'est par exemple le fait que certains rôles, comme celui-là, comme des Grieux, collent parfaitement, je sais pas, à la personnalité, à la voix d'un chanteur?
C'est tout à fait possible. Moi, on m'a dit, à Bordeaux, quand j'ai commencé vraiment à chanter le rôle en entier avec l'orchestre, on m'a dit, ce rôle te tombe comme un gant sur tes cordes vocales. Et c'est vrai qu'il y a peu de rôles, à part Rodolfo dans La Bohème ou Lenski, mais Lenski est un rôle assez court, qui sont tombés aussi bien sur ma voix, tout simplement parce que ça fonctionne, ça marche. Et en plus, dans le rôle de Desgrieux, il y a cette composition de Massenet qui fait qu'en fait, j'ai la possibilité, durant tout l'opéra, de visiter peut-être 80 à 90% de toutes les couleurs que ma voix a à offrir. Ce qui est très rare. Dans La Bohème, j'ai peut-être 50% de possibilités. Je peux aller dans les pianos, je peux aller dans les fortés, je peux essayer beaucoup d'approches différentes. Mais là, dans Manon, avec des Grieux, j'ai vraiment des possibilités. Je remercie Massenet des centaines d'années plus tard d'avoir composé ce rôle comme ça. Il aurait pu le composer très différemment, ce rêve de Desgrieux au deuxième acte, cette approche qu'il a, le caractère, le rôle de Desgrieux qu'il a composé me permet de voyager à travers toutes les palettes de couleurs de ma voix d'une façon assez rare. Je pense pas qu'il y ait pour l'instant, peut-être Roméo l'année prochaine que je vais découvrir. Je connais pas d'autres rôles qui me permettent de voyager à ce point-là dans mes couleurs.
C'est la palette des couleurs palette de votre voix, mais c'est aussi le personnage des Grieux que vous aimez.
Ouais, je dois dire que c'est un rôle, c'est un personnage assez unique. Travailler avec Vincent Huguet en plus me permet de le découvrir encore plus. C'est vraiment magnifique. Il nous a vraiment emmené dans un univers merveilleux, Vincent Huguet, avec cette production de Manon. Desgrieux, c'est un personnage très moderne. C'est un homme moderne, vraiment d'aujourd'hui, qui n'est pas un homme tout puissant, c'est pas un homme fort, c'est pas un homme qui veut être numéro un et sa femme numéro deux. Il veut pas d'une femme potiche. Il a besoin d'un maître. Ça, c'est aussi ce que j'ai beaucoup appris avec Vincent, c'est que s'il n'a pas son père Desgrieux, il a Dieu. Et s'il n'a pas Dieu, il a Manon. Mais sans aucun de ces trois maîtres, il n'est pas complet. Et Desgrieux traverse l'opéra, traverse la pièce avec vraiment cette fébrilité, mais en même temps cette humanité et cette clarté avec lui-même. Il parle de ses sentiments comme un homme moderne. Il parle de son amour comme un homme moderne. Et c'est absolument merveilleux de chanter ça.
Benjamin Bernheim, vous évoquiez à l'instant Lenski. Lenski, vous le chantez, c'est dans Eugène Onegin de Tchaïkovski, vous le chantez sur votre album, puisque vous ne chantez pas qu'en français, vous chantez aussi en italien et vous chantez donc en russe. Et beaucoup d'auditeurs vous ont signifié que c'était leur préféré, donc on va l'écouter.
Venite mi.
n'était pas question de vous interrompre, Benjamin Bernet, mais il est 7h30 sur France Culture, surtout restez avec nous. On va laisser passer les titres de l'actualité et on vous retrouve juste après. 7h30 sur France Culture. Le ténor Benjamin Bernheim est notre invité ce matin. Il a été sacré hier soir artiste lyrique de l'année aux Victoires de la musique classique. Il nous fait l'honneur, le plaisir d'être avec nous ce matin aux Aurores. Benjamin Bernheim, on évoquait tout à l'heure, et d'ailleurs on a entendu plusieurs airs de ce disque que vous avez enregistré qui a paru à l'automne. C'est votre premier disque, premier album, qui dit peut-être à la fois d'où vous venez et où vous allez, représentatif de vous-même au fond.
Oui, vraiment un disque, un album, un premier album solo, typique, classique, carte de visite, sans faux semblant.
Elle est pas mal comme carte de visite.
Hein. Oui, oui, elle est plutôt réussie parce qu'elle elle représente très bien ce que je suis, d'où je viens et aussi où je vais, mais sans faux semblant. On voulait pas de titre, on voulait pas se cacher derrière un fil rouge dramaturgique en racontant une histoire. On voulait simplement présenter. Deutsche Grammophon présente un nouveau ténor qui arrive, Benjamin Bernheim, avec ce qu'il chante de mieux, au mieux, et ce qu'il va peut-être chanter dans le futur, avec plein de choses que je n'ai pas encore chantées. Werther, La damnation de Faust, Louisa Miller, je ne vais pas chanter ça avant une dizaine d'années.
Que vous chantez
que sur votre chante album. Dans l'air, parce qu'en plus, je veux profiter de ma jeunesse et de ma fraîcheur vocale pour aussi donner une couleur un peu plus fraîche à cette air qui souvent est chantée de façon très, très héroïque. Et donc, je voulais donner voilà, ma version de ça maintenant, parce que dans 10 ans, je chanterai sûrement plus de la même façon. Donc, c'était vraiment une carte de visite, une manière d'être introduit dans le cercle très fermé des chanteurs qui ont une discographie. Donc, ça, déjà, c'était un grand moment et important, tant pour le label de Deutsche Grammophon, qui prenait le risque de prendre quelqu'un qu'on ne connaissait pas, parce que, évidemment, je fais une carrière surtout en Allemagne, en Suisse et en Autriche. En France, ça commence à venir depuis 2-3 ans, mais comme vous l'avez dit, on ne me connaissait pas, on ne m'attendait pas, et voilà, c'est ma façon de venir me présenter à un peu tout le monde, mais en toute simplicité.
Vous dites, Benjamin Bernheim, que vous vivez en Suisse, en tous les cas, vous y passez une partie de l'année. Et c'est un pays où il fait bon vivre, la Suisse, où on regarde la France avec distance.
Non, je vis à Zurich parce que j'étais pendant 10 ans, ça fait 10 ans que j'y vis, j'étais dans le Young Artist Programme, l'Opéra Studio à l'Opéra de Zurich. Ensuite, j'étais dans la troupe là-bas, où j'ai beaucoup appris. J'étais à Zurich pendant l'âge d'or de l'Opéra de Zurich, où tous les grands étaient membres de la troupe de Zurich, c'est-à-dire Piotr Beccala, Vittorio Grigolo, Jonas Kaufmann, Cecilia Bartoli, Thomas Sampson, j'en passe, parce qu'il y a une liste absolument interminable de tous les artistes qui étaient en résidence là-bas. Et donc c'était un âge d'or extraordinaire là-bas pour un jeune chanteur comme moi. J'ai beaucoup appris, évidemment, je n'avais pas beaucoup de chance de chanter et de me mettre en avant, donc je faisais des petits rôles. Comme le dit un de mes amis, tu dormais en troupe à l'époque. Oui, d'une certaine manière, je dormais en troupe. Mais en même temps, j'ai beaucoup appris. Et la Suisse, bon, c'est ma deuxième nationalité, puisque je suis français et suisse. Je suis né à Paris, j'ai grandi en Haute-Savoie et à Genève. Et voilà, je suis citoyen suisse aussi.
Vous en avez parlé deux fois tout à l'heure. Vous aimez beaucoup le tennis.
Oui.
Pratiquer le tennis. Parfois, vous pouvez même vous préparer à la scène en jouant au tennis. Et vous jouez au tennis beaucoup en Suisse,
non,
à Zurich.
Pas assez. Vraiment, j'ai pas le temps, malheureusement. J'ai beaucoup joué au tennis quand j'étais adolescent, beaucoup joué au football. Et j'ai de moins en moins le temps. Donc, je vais à la salle de gym, je vais faire du
c'est
sport,
pas avec la victoire de la musique que ça va s'arranger.
Voilà, ça va pas s'arranger tout ça. Mais quand je suis à Paris, je joue beaucoup au tennis avec mon grand-oncle, dont les initiales sont les mêmes que les miennes, bébé. Alors, soit c'est bébé qui gagne, soit c'est bébé qui gagne.
Allez, vous avez choisi, pour terminer, non pas un air classique, non pas un air d'opéra, Benjamin Bernheim, mais Space Oddity de David Bowie. Donc, on va décoller avec vous.
Merci. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on.
Merci beaucoup Benjamin Bernheim et merci encore d'être venu ce matin. Manon, ça sera à l'Opéra de Paris les 29 février, 4, 10, 17, 25 et 31 mars, 3, 7 et 10 avril. Il reste des places à la vente, mais il faut faire vite hein, pour avoir d'abord les moins chers et puis parce que avec la victoire de la musique classique, sans doute les places vont s'arracher. Et Manon sera retransmis en direct dans plus de 100 cinémas en France le 17 mars. Vous serez à nouveau à l'Opéra Bastille à Paris le 1er, 4, 7, 10 et 13 juin 2020 dans la Bohème de Puccini. Et ce disque, Benjamin Bernheim, magnifique, apparu chez Deutsche Grammophon. Merci beaucoup et félicitations.
Merci Caroline.